Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous recevons aujourd'hui M. Alain Chéloul, qui est directeur de la CPM de Nîmes, c'est-à-dire la Caisse d'assurance maladie du Gard. Après une carrière de cadre dirigeant au sein du réseau de l'assurance maladie, il a été DRH des réseaux de la CNAM, nous reviendrons sur ce qu'est la CNAM, de 2017 à 2019. Il est directeur de la CPM du Gard depuis octobre 2019. Bonjour à vous, Alain Chéloul.
Bonjour.
La première question que j'aimerais vous poser est: qu'est-ce qu'une CPAM, une caisse primaire d'assurance maladie ?
Simplement, une caisse primaire d'assurance maladie, c'est une organisation de services publics qui prend en charge le coût des soins des assurés sociaux. Donc pour bénéficier des offres de l'assurance maladie, il faut être assuré social. Et aujourd'hui en France, grâce à la protection universelle maladie, tout le monde est assuré social.
Automatiquement, tout français est...
Dès lors que vous exercez une activité salariée ou que vous êtes en situation régulière sur le territoire français, vous bénéficiez de l'assurance maladie.
Alors, puisque vous l'évoquez, c'est une question aussi, les gens qui sont dans une situation irrégulière, comment les soigne-t-on ?
Il y a un dispositif qui s'appelle l'aide médicale État. Voilà. Et autrement, dès lors que vous n'entrez pas dans les critères de l'aide médicale État, vous pouvez bénéficier des dispositifs de soins d'urgence.
Voilà. Donc, l'administration que vous dirigez permet à tous les gens qui sont en France d'avoir une couverture santé, d'être soignés.
Oui.
C'est-à-dire que n'importe qui en France peut être soigné, ce qui est un avantage que beaucoup de pays ne partagent pas et qui, en tant que médecin, est très intéressant parce que ça permet d'avoir une protection des maladies, notamment des maladies infectieuses, de contamination, etc., qui joue un rôle très important pour l'ensemble de la population. Donc c'est quelque chose d'important. Vous avez comment employé le thème d'universel, et c'est bien une vision française de l'universalité, et donc au niveau de la santé. Donc pour le médecin que je suis, évidemment, cette universalité donc, qui touche toutes les personnes humaines est quand même très très importante. Alors quelles sont les relations entre les CPAM d'un département et ce que l'on appelle la CNAM que j'ai cité plus haut? Alors je rappelle que la CNAM, c'est la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ce que j'en sais, c'est qu'avec ses plus de 2500 salariés, la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAM donc, est la tête de réseau opérationnel du régime d'assurance maladie obligatoire en France. Son rôle est d'impulser la stratégie au niveau national, puis de coordonner et d'appuyer les organismes locaux qui composent ces réseaux. Donc, quelles sont les relations entre votre CPAM et la CNAM?
Alors, la Caisse nationale d'assurance maladie a un rôle extrêmement important, puisqu'en fait, elle participe à la conception des politiques publiques de sécurité sociale et elle en organise la mise en œuvre. Pour mettre en œuvre ces politiques de sécurité sociale, elle s'appuie sur un réseau d'une centaine de caisses primaires, en gros une par département, pour faire simple. Et donc, elle est chargée de piloter l'activité des caisses primaires. Donc, elle donne l'impulsion, sachant que les caisses primaires, étant au plus près des préoccupations des usagers dans les départements et dans les territoires, peuvent adapter la mise en œuvre de ces politiques à la réalité locale.
D'accord. Donc, la CNAM, maître d'œuvre.
Maître
d'ouvrage. Il y a une relation avec le gouvernement, le ministre de la Santé, une politique commune.
Alors, il y a la politique, la traduction politique de l'assurance maladie, c'est tous les ans dans la loi de financement de la sécurité sociale.
D'accord.
En France, on vote deux lois importantes à l'automne. C'est la loi de finances pour faire fonctionner l'État et la loi de financement de la sécurité sociale fonctionner la sécurité sociale. Et cette loi de financement, elle fixe les ressources de l'assurance maladie pour un exercice donné. Et elle fixe notamment un taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie qui s'appelle l'ONDAM, dont on parle chaque année, parce que ça fait des mécontents ou ça fait des contents. Donc, en gros, chaque année, le législateur, par exemple, cette année, a voté un budget pour l'assurance maladie de la sécurité sociale, la branche maladie de la sécurité sociale, de l'ordre de 200 milliards d'euros.
200 milliards d'euros.
Un peu plus, même.
Mais voilà. Les chiffres qui sont extraordinaires. Hein.
Ah oui, oui.
Et donc, est-ce que le ministre de la Santé a un rôle à jouer?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a une relation entre la CNAM et le gouvernement, le ministre de la Santé, des projets communs, des discussions?
Les relations entre la CNAM et les ministères sont permanentes.
Sont permanentes.
Permanents.
D'accord. Voilà. C'est une relation. Alors, la question aussi qu'on se pose, que nos éditeurs peuvent se poser, c'est quelle est la différence entre président et directeur d'une CPAM?
Alors, d'abord, il n'y a pas de président de CPAM. C'est un raccourci qui peut être trompeur. Vous avez un président du conseil de la CPAM. Et ce conseil est un conseil de surveillance qui représente les usagers. Et en tant qu'instance de surveillance, il est là pour voir si moi, en tant que directeur, je mets correctement en œuvre la politique d'assurance maladie sur le territoire. C'est un conseil de surveillance.
D'accord. Lorsque j'ai appelé le président, c'est en fait le responsable, le représentant des usagers. Alors, voilà. Je pense qu'il doit y avoir les patrons.
Exactement.
Et les salariés.
Oui. La mutualité, des associations de patients,
de patients, etc., qui se réunissent et qui vous surveillent un peu pour voir si vous...
Voilà, ils votent le budget, donc c'est pas neutre, hein, ils votent le budget de l'organisme, ils veillent à ce que les politiques de relations avec les usagers soient des politiques équitables et cohérentes, et bénéficient à l'ensemble des usagers sur le territoire, par exemple.
Alors, dans votre réponse à ma question précédente, vous avez précisé que les CPAM avaient une petite autonomie.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots cette petite autonomie, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau du Gard ou la CPAM de la Lozère?
Alors,
s'il y a des différences, si peu.
Je vais donner un exemple très concret. Par exemple, actuellement, sur le territoire de Nîmes, en lien avec les maisons de santé pluridisciplinaires, donc avec vos confrères libéraux, nous organisons régulièrement des journées santé femmes pour promouvoir les dépistages obligatoires des cancers féminins.
Très bien.
Vous voyez, ça, d'accord, c'est quelque chose qui est né dans le Gard. Autre exemple de ce qui est né dans le Gard, c'est une action qui a été lancée afin de lutter contre le renoncement financier aux soins. Parce que des gens ne se soignaient pas, nous avons constaté dans le Gard, en 2015, qu'un assuré sur quatre qui se présentait à nos accueils avait dû, dans les 6 mois précédant son contact, renoncer à des soins. Et pour lutter contre ce renoncement aux soins, qui pouvait être terrible, avoir des conséquences terribles au plan sanitaire.
Pour des graves maladies,
voilà,
ou exactement, pour des traitements longs, chroniques,
voilà,
des maladies chroniques.
Exactement. Nous avons mis en œuvre une politique locale, et cette politique locale qui est née dans le Gard a été généralisée à l'ensemble du territoire français.
Ah, donc vous avez fait école, et ce qui s'est passé... Et donc ça nécessite une dispense d'avance de frais, je suppose, du patient ou de sa famille.
Oui, alors ça passe effectivement par des techniques financières, dont la fameuse dispense d'avance de frais. Hein, je ne m'étendrai pas, mais c'est vrai qu'on dispose de beaucoup de moyens pour faire en sorte que les assurés du Gard puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin.
Alors, je vais vous poser une question à présent. Les professionnels de santé connaissent bien, qu'ils soient médecins, infirmières, kinés, etc. Mais que les patients ne connaissent pas, c'est les conventions médicales. Alors, qu'est-ce qu'une convention médicale et avec qui est-elle signée?
Alors, une convention médicale, elle est signée entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, donc entre l'Union des caisses nationales d'assurance maladie étant constituée par la CNAM, et par la Caisse nationale de mutualité sociale agricole, qui sont les deux grands régimes de sécurité sociale.
On en reparlera un peu plus tard.
Et les représentants des syndicats de médecins, donc les syndicats représentatifs de médecins. La vocation de ces conventions, c'est d'organiser les relations entre l'assurance maladie et les médecins, tout particulièrement en matière de santé publique, de prévention et de prise en charge financière des soins.
D'accord, très bien. Et actuellement, sur le Gard, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas conventionnés?
Non, c'est vraiment... Il y a quelques médecins qui ne sont pas conventionnés.
Donc, la majeure partie des médecins...
Oui, la quasi-totalité des médecins du Gard sont conventionnés.
Et ces conventions, pas la même, évidemment, mais il y a une convention donc, avec les infirmières, une convention avec les kinés.
Chaque profession de santé.
Alors, les médecins, les infirmières, les kinés...
Les pharmaciens. Les chirurgiens-dentistes.
Les
pédicures podologues, les orthophonistes, les centres de santé.
Voilà, donc il y a de multiples conventions, chacun avec sa propre personnalité par rapport à la profession, etc.
Oui, oui.
Rappelons que les psychologues, elles et eux, je dis elle parce qu'il y a beaucoup de dames qui sont psychologues, ne sont pas, ne rentrent pas dans une convention.
Non.
Voilà. Et donc, ne sont pas les honoraires ne sont pas pris en charge par les CPM.
Par l'assurance maladie.
Voilà, par l'assurance maladie. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Nous recevons aujourd'hui M. Alain Chelloul, qui est directeur de la CPM de Nîmes, qui nous parle de ce qu'est la CPM du Gard. Je vous propose une pause musicale en écoutant Jean Sibelius, Valse triste, par l'orchestre dirigé par Herbert von Karajan. Nous recevons aujourd'hui M. Alain Chelloul, qui est directeur de la CPM de Nîmes, et qui, répondant à mes questions, nous éclaircit sur cette administration ou institution. La question que tout le monde se pose aujourd'hui est de savoir, quand beaucoup de Français en manquent, pourrait-on se passer du statut de médecin traitant ?
Alors, aujourd'hui, le médecin traitant, son utilité... n'est plus à démontrer. D'abord, il faut comprendre que le médecin traitant, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2004 pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de recours, comment dirais-je, inadapté au système de soins.
Et itératif. Quoi,
voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes rattaché à un médecin traitant, vous bénéficiez d'une couverture de vos soins par l'assurance maladie qui est correcte, qui est la couverture légale, normale. Mmh. Dès lors que vous n'êtes plus dans le parcours de soins, la prise en charge des soins est inférieure pour une raison simple, c'est que on n'a plus de soins coordonnés. Mmh. Vous sortez d'un dispositif de soins coordonnés.
Alors, expliquez-nous ce que vous entendez, ce que l'institution entend par soins coordonnés.
Alors, la première chose, je pense que la tenue du dossier médical, c'est quand même le socle de la vie sanitaire d'un patient, et qu'elle soit tenue par un professionnel de santé reconnu et expérimenté, comme le sont les médecins généralistes, est extrêmement important. Deuxièmement, quelle est la personne la plus apte à vous orienter correctement vers le bon professionnel au bon moment que votre médecin généraliste qui vous connaît. Mmh. Et donc, pour qu'il vous connaisse, il ne peut pas avoir affaire à quelqu'un qui pratique le nomadisme médical.
D'accord. Voilà. Mais bon, une question, j'enfonce un peu le clou, parce que beaucoup d'auditeurs pensent pourquoi il y a tant de patients qui n'ont pas de médecin traitant et qui sont en manque de médecin traitant. Normalement, il devrait y avoir une réponse globale. C'est une santé universelle. Donc, tous les Français devraient avoir un médecin traitant et avoir recours facilement à un médecin traitant. Pourquoi, moi, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « j'ai pas de médecin traitant, pourquoi il y a ce manque ?»
Alors, en France, on vit dans une originalité, pas dans un paradoxe, mais dans une originalité. La médecine est organisée en deux blocs, un bloc hospitalier, public ou quasi-public, hein, on a quand même des établissements privés de santé, et puis une médecine dite de ville, la médecine ambulatoire. Mmh. La médecine ambulatoire, ce sont des professions libérales. Et ces professionnels de santé libéraux ont une pratique qui est adossée à des principes fondamentaux de la médecine libérale, qui remonte à très longtemps.
Oui, très longtemps. Oui.
Et parmi ces principes libéraux, il y a la liberté de choix du patient.
Oui,
d'accord. Et du praticien.
Le patient peut choisir le médecin, voilà. Mais le médecin peut aussi, permettez-moi voilà. Quelque chose qu'on dit actuellement, entre guillemets, choisir son patient.
Donc ça c'est adossé à des principes, je veux dire, qui sont extrêmement importants en France et qui ont permis jusqu'à ces dernières années de très bien fonctionner. On a une crise démographique des médecins en France, il faut pas le nier. Elle va se corriger dans les 10 ans à venir, donc c'est long, mais ça ne se corrigera pas en dehors de cet espace-temps de 10 ans. Ce qui fait qu'en ce moment, les médecins du Gard notamment, hein, moi je peux parler de ce que je vois au quotidien, s'organisent pour faire en sorte, et nous les aidons, nous les accompagnons pour qu'ils s'organisent, pour faire en sorte qu'ils puissent prendre plus de patients dans leur patientèle.
D'accord.
Mais un médecin généraliste, les médecins en général et les médecins généralistes notamment, travaillent déjà beaucoup.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Donc, ça passe par des solutions d'organisation. Donc, notamment, je parlais tout à l'heure des maisons de santé pluridisciplinaires. Ça, c'est un mode d'exercice qui permet, quelque part, d'assurer la continuité des soins et le partage des tâches.
Parce que là, on dégage le temps administratif qui prend beaucoup de temps aux médecins et de relationnel informatique. Et le médecin se consacre à sa spécificité, c'est-à-dire soigner et essayer de comprendre et d'adapter.
Voilà. Donc, on accompagne dans cette période, qui est une période compliquée, mais transitoire, nous accompagnons les médecins libéraux pour pas qu'ils aient à renoncer à ce qui fait leur pratique de médecine libérale.
Donc, vous êtes optimiste?
Je suis réaliste.
Bon, réaliste. Et les médecins adhèrent facilement à vos aides, vous demandent, participent?
Le département du Gard est déjà assez bien doté en maisons de santé pluridisciplinaires, puisque le gouvernement va lancer un plan 4000 maisons de santé disciplinaires sur tout le territoire. Nous représentons 1% de la population française dans le Gard, et nous avons déjà 40 maisons de santé pluridisciplinaires, plus d'autres à venir.
Il y a des projets de maisons pluridisciplinaires.
Oui, il y en a d'autres. D'autre part, on a des assistants médicaux dans le Gard. Le nombre de professionnels de santé libéraux ayant adopté ou du moins adhéré au dispositif assistant médical. Donc, nous finançons, en clair, ça veut dire on finance.
Oui, l'assistance médicale, c'est une personne qui est formée pour aider le médecin.
Exactement, et que nous rémunérons.
Oui, hein, c'est la caisse qui est... Voilà, c'est pas le médecin qui est un salarié.
Si, le médecin est un salarié, mais on rembourse le salaire.
Mais voilà, vous remboursez, donc il a la responsabilité et le relationnel du salarié, mais il n'a pas le coût financier du salarié.
Exactement, et les médecins du Gard jouent particulièrement bien le jeu en la matière. Ils s'organisent, ils ont la volonté de s'organiser. S'organiser à 600 médecins généralistes, c'est pas si évident à faire sur un territoire. Mais il y a une réelle volonté, ils ont une réelle volonté de s'organiser et progressivement, c'est pour ça que je suis réaliste, ça se met en place. Ouais. Voilà.
Et donc cet assistant prend ce qu'on appelle en médecine les constantes, qui ne le sont d'ailleurs jamais, c'est-à-dire peut prendre la tension artérielle, la température, commence à déshabiller le patient, etc. C'est-à-dire que le médecin, tout est prêt et pour qu'il puisse travailler sans perdre du temps. Et alors, je voulais vous poser aussi une question. Quelles sont les relations entre les CPM et les autres caisses d'assurance maladie en sachant qu'il n'en reste plus beaucoup comme auparavant.
On a, d'abord, elles sont bonnes. Oui. Moi, en tout cas, avec la MSA, dans le Gard, j'ai des excellentes relations avec la MSA, d'autant que nous intervenons en commun sur des sujets d'ordre sanitaire. À titre d'exemple, nous, dans le Gard, on conduit une campagne avec les généralistes et les cardiologues sur les signes de détection de l'insuffisance cardiaque.
Oui.
Cette campagne, elle est menée conjointement avec nos collègues de la MSA.
D'accord.
Donc, c'est la sécurité sociale des exploitants et des employés et des salariés du monde agricole. Mais de toute façon, c'est la sécurité sociale comme nous la pratiquons.
D'accord. Sauf... Et point de vue caisse, avant, il y avait beaucoup de caisses, caisse des notaires, des
pêcheurs. Elle existe toujours, la caisse des notaires.
Il y a toujours quand même de multiples.
On regroupe.
Mais non, on regroupe de plus en plus.
Il y a une tendance au regroupement et qui va de pair avec... l'universalisation de la sécurité sociale.
Voilà, c'est le maître mot, l'universalisation. Et alors, en fait, la CPAM, c'est vous qui la gérez. Et puis, ce groupe de personnes, dont le président, peut-être pas une tutelle, mais une surveillance, et les membres de ce groupe sont élus donc par les syndicats, par les associations désignées.
Désigné par les syndicats,
par exemple, de salariés désigne monsieur un tel voilà. pour siéger, avoir la voix et représenter le syndicat.
Exactement.
D'accord. Donc, c'est quand même démocratique et c'est un mode de fonctionnement qui est clair. Quoi, hein. Alors, la question aussi, c'est comment s'organise le service médical d'une CPAM ? Parce que des patients, nos auditeurs sont patients, ce sont des voix convoquées par les médecins conseils. Alors, comment s'organise et comment se... Vos relations avec le service médical d'une CPAM.
Alors déjà, à savoir, le service médical de l'assurance maladie ne dépend pas du directeur de la CPAM. Le service médical de l'assurance maladie, c'est un service national qui dépend de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ouais. Et c'est quelque chose d'intéressant. Parce que quelque part, ça laisse une liberté d'appréciation et d'exercice à vos confrères qui exercent au sein de l'assurance maladie.
Très bien.
Ça, c'est une garantie. Deuxième chose, ils sont là pour... veiller et valider l'attribution des prestations sous conditions médicales. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas compétent pour dire, je peux vous parler de finances.
Oui, de santé publique.
Voilà, mais en tout état de cause, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas à même de vous dire tel arrêt de travail, telle intervention chirurgicale est adaptée ou pas adaptée.
Et médicalement justifiée voilà. ou pas. Donc à ce moment-là, vous tournez vers un service
vers
médical
l'expert médical
qui est indépendant de vos voilà, services
exactement.
Et vous lui posez une question.
Et il me
donc
répond.
Lui, il convoque le patient, il fait son examen clinique, il fait son diagnostic et il valide ou il valide pas la décision de son confrère libéral ou hospitalier.
Et il y a une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, je n'ai pas accès au diagnostic.
Oui, alors ça, c'est important. C'est-à-dire que le secret médical est maintenu par les médecins conseils. Le secret médical, qui est une pièce, qui est une pierre d'angle fondamentale du système de soins, surtout français, est protégé aussi bien dans le monde libéral que dans le monde hospitalier. Alors, le directeur de l'hôpital n'a aucun droit sur les dossiers médicaux. Et au niveau de la caisse primaire d'assurance, le directeur et les administratifs n'ont aucun regard sur le diagnostic.
Exactement.
Donc, c'est tenu au secret médical. Les médecins conseils sont tenus au secret médical comme les médecins de ville, les médecins hospitaliers. Vous leur posez une question. Est-ce que c'est médicalement justifié ou c'est pas médicalement justifié? Ils répondent par oui ou par non. Ça, je ne sais pas s'ils argumentent ou pas, mais normalement, c'est par oui ou par non. Mais en gardant, évidemment, le secret médical.
Exactement.
Donc, les patients n'ont pas de souci à avoir de ce côté-là. Oui, à côté de ce côté médical, j'avais envie de vous poser une question sur budget. Alors, le budget de la CPAM du Gard, et quel est le budget de l'assurance maladie de la France pour une année?
Alors, pour une année, c'est un peu plus de 200 milliards d'euros. Et pour
excusez-moi, mais est-ce que vous connaissez le budget de la France?
Le budget de l'État français,
oui.
1200 milliards.
Donc, c'est quand même énorme.
Le budget de la sécurité sociale, de toute façon, le budget de la sécurité sociale, quand on prend toutes les branches de la sécurité sociale, donc accident du travail, assurance maladie, vieillesse, allocation familiale, est supérieur au budget de l'État.
Voilà, c'est ce que beaucoup de gens, c'est ce que je voulais vous faire dire, parce que beaucoup de gens ne savent pas que le budget de ce qu'on appelle la sécurité sociale est plus important que le budget de la nation.
Alors, c'est... Je pense qu'il y a une... Je voudrais apporter une précision. les politiques de sécurité sociale en France, c'est l'État. L'État agit financièrement de deux façons. D'accord, il agit pour les services quotidiens aux citoyens, au travers du budget de l'État et de la loi de finances, et il agit en matière de sécurité sociale au travers de la loi de financement de la sécurité sociale. Mais en tout état de cause, c'est l'État. Les deux lois sont votées par le Parlement sur proposition du gouvernement.
Et le budget de votre caisse, c'est pas indiscret.
Non, mais c'est public de toute façon. Non, le budget de la caisse, il est de l'ordre de 2 600 000 000 d'euros.
2 600 000 000 d'euros.
Redistribué chaque année.
Très bien. Ben, il me reste à bien vous remercier, M. Alain Chelloul, vous qui êtes directeur de la CPM de Nîmes, pour le temps que vous nous avez accordé et pour votre présence à nos côtés et vos nombreux éclaircissements sur cette institution qui est une CPM. Merci encore infiniment.
Merci de votre accueil.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de livres grand public sur les CPM ou la CNAM, mais sur l'organisation du système de santé en France. Vous pouvez lire « Politique d'organisation du système de santé en France » de Bernard Marot, éditeur L'Harmattan, collection éthique et pratique médicale, qui a été publié en 2022. « Le système de santé français, aujourd'hui enjeux et défis » de Thomas Barnet, Anne-Laure Sanson, Bruno Venteloup, aux éditions SK de 2021. « Un que sais-je ?» Le système de santé en France, de Diane Lequet-Slama, Pierre-Jean Lancry, aux Presses universitaires de France, édité en 1999. Et sur le site du CLEI2S, le système de santé en France. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé, un trésor, sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.
Partagez vos événements sur notre antenne en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.